Le débat du jour.
Anne Souhaitemont.
Bonsoir à tous. Retour dans le débat de ce soir sur la crise que traverse la CPI, la Cour pénale internationale, qui, il faut bien le dire, accumule les mauvaises nouvelles. En quelques semaines, trois pays africains ont annoncé leur retrait après des années de critiques acharnées, l'Afrique du Sud, la Gambie, le Burundi. Mais la critique dépasse aujourd'hui le continent africain, la Russie et les Philippines menacent de se retirer, pas exactement dans les mêmes conditions, on y viendra sans doute dans le cours de ce débat. Précisons que Moscou, signataire, n'avait toutefois jamais ratifier le traité. Motif de ces différents retraits, la CPI ne serait pas indépendante, inutile à même renchérir Manille. Alors CPI, coup d'arrêt ou coup de grâce, c'est le débat de ce soir. Bienvenue. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans ce studio deux invités. Cécile Coudriot, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes vice-présidente d'Amnesty International France. Deuxième invité, Francis Patindé, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste, maître de conférence à Sciences Po Paris. Alors avant de vous donner la parole sur ce thème, je voudrais qu'on écoute Alassane Ouattara, le président ivoirien. Il était reçu ce matin par François Hollande à l'Élysée. Laura Martel pour RFI lui a demandé s'il craignait un effet domino après ses multiples retraits de la CPI.
Non, je ne le pense pas, je ne le souhaite pas. Ce sont des décisions souveraines, mais la Côte d'Ivoire ne quittera pas la CPI. Et je pense que la plupart des pays sont dans cette volonté. Il s'agit de lutter contre l'impunité, c'est de notre intérêt. Nous devons commencer par la justice au plan national et si possible ensuite au plan régional et continental. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui au niveau du continent. Donc la Cour pénale internationale fait son travail. Souvent d'ailleurs à la demande des pays africains, des autorités africaines.
Francis Patindé, votre réaction aux propos qu'on vient d'entendre d'Alassane Ouattara, vous êtes d'accord, la CPI fait son travail ?
Ça dépend. En fait, les États qui quittent, certains États qui quittent, ne sont pas contre, ils sont pas pour l'impunité. Ils sont au contraire, certains d'entre eux, l'Afrique du Sud, est contre l'impunité pour les crimes les plus graves. Donc, pourquoi les États africains ont signé ? Beaucoup ont signé. Ils ont signé aussi parce qu'ils s'en servent comme épouvantail contre leurs opposants, en disant « tenez-vous tranquille, sinon je vous envoie à la CPI ». Donc là, je voudrais nuancer le propos du président ivoirien et dire que la plupart des États luttent contre l'impunité, mais selon la manière dont fonctionne la CPI qui est en cause.
Et pourquoi cette manière est, à votre avis, en cause de manière justifiée ?
On a le sentiment d'abord que c'est pas une institution judiciaire indépendante. Vous savez que parmi les modes de saisine, il y a la possibilité de saisir par le Conseil de sécurité. Et au Conseil de sécurité, c'est une institution politique, éminemment
mais
politique.
La plupart des saisines viennent des États eux-mêmes.
Ça vient des États. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, les États s'en servent également comme d'une menace contre leurs opposants, en disant vos manifestations n'ont pas intérêt à déraper parce que je pourrais vous envoyer à la CPI. Donc, il y a également un problème d'universalité de la CPI. Et pour le moment, la CPI n'est pas universelle dans ses prises de décision, dans les enquêtes qu'elle ordonne, et on n'a pas le sentiment que ce soit une cour universelle.
Alors ça c'est vrai hein, que les chiffres plaident en faveur des frondeurs, comme on dit, puisqu'aujourd'hui 9 des 10 enquêtes concernent des pays du continent africain, la 10e concerne la Géorgie. Cécile Coudriot, est-ce que, pour reprendre l'intitulé de l'émission qui est un peu cash, c'est la fin de la CPI ?
Non, ce serait vraiment excessif de parler de fin de la CPI, une crise sans aucun doute. Et c'est pour cela qu'on réagit avec force à Amnesty International en lançant justement un appel à tous les pays, non seulement de soutenir cette institution qui reste absolument indispensable, mais aussi de chercher à renforcer ce système, car on est absolument bien sûr conscient et d'accord pour dire qu'il y a encore des insuffisances. Le principe de la compétence universelle, comme vous le rappeliez, et ce vers quoi on tend, c'est le principe fondateur avec celui de la lutte contre l'impunité, évidemment, de la création de cette Cour pénale internationale. Mais c'est quelque chose vers lequel on tend, mais auquel on n'est pas encore arrivé. Donc il faut encore, bien sûr, travailler, réformer de l'intérieur, et donc certainement pas la quitter.
Alors on va venir, évidemment, aux réformes hein, que vous pourriez l'un et l'autre suggérer. Je reviens quand même, vous me dites non, c'est pas la fin de la CPI, mais c'est quand même historique, ces trois retraits de suite. C'est pas n'importe quel événement dans l'histoire de la CPI qui, on peut le dire, a été mis en vigueur en 2002.
Voilà, j'allais le dire, il faut quand même se souvenir de la date de la naissance de la CPI, donc 1998 pour le statut de Rome, et en 2002, l'entrée en vigueur hein, donc de ce statut de Rome, et donc la fondation de la Cour pénale internationale, c'est quand même relativement peu, c'est récent, c'est finalement, au regard de l'histoire de la justice, quelque chose qui, bien sûr, doit être amélioré.
Mais justement, on pourrait dire aussi, ça fait pas longtemps, et déjà trois retraits.
Déjà, trois retraits. Effectivement, il faudra commencer d'abord à analyser les raisons de ces retraits, qui sont certainement pas les mêmes selon les pays. Donc, commençons par le Burundi. Bon, c'est évidemment un pays qui connaît encore d'ailleurs une crise terrible des droits humains. Et donc là, on se rend bien compte que la première motivation souvent des États qui souhaitent soit ne pas signer et ratifier encore moins le statut de Rome, soit lorsqu'ils l'ont fait s'en retirer, c'est lorsqu'ils se rendent bien compte qu'ils pourraient tomber eux-mêmes sous le coup de la justice, sous les projecteurs d'enquête. Et donc, il est préférable d'user d'arguments tels que le manque d'impartialité ou le côté acharnement sur l'Afrique pour mieux justifier le fait de ne pas rendre des comptes.
Et donc, ça, ce sont des arguments que vous ne recevez pas. En revanche, ce que disait tout à l'heure Francis Patindé, par exemple, sur l'Afrique du Sud, qui dénonce une justice plus politique, ça, vous l'entendez ?
Alors, on entend les critiques. Il faut bien savoir qu'on n'a pas du tout un point de vue complètement excessif à notre tour. On entend bien sûr des critiques. Il est indéniable, comme vous l'avez rappelé, que 9 affaires sur 10 concernant l'Afrique, bon, ça pose question. Mais encore une fois, ça pose des questions plutôt pour amener à des réformes et aussi la question des moyens, évidemment. Et je pense qu'il est important d'aller plutôt vers l'avenir, de voir comment on peut consolider cette institution plutôt que de l'accuser de tous les maux.
Alors justement, Cécile Coudrieu, vient d'en parler de l'élargissement des moyens. Il faut le rappeler, la CPI ne dispose pas de moyens d'enquête propres. Est-ce que, à votre avis, Francis Patindé, ça pourrait être une piste de réformes importantes de la CPI?
Oui, les moyens, on en a besoin pour faire des enquêtes sérieuses. Parce que jusque-là, vous savez, dans certains cas, les preuves se résument à des coupures de presse, à des témoignages anonymes et à des documents fournis par des services de pays qui sont intéressés, qui sont partis à l'affaire. Donc ça ne donne pas de gage de sérénité et de professionnalisme.
Mais alors qu'est-ce qui explique que la CPI n'ait pas été dotée de moyens financiers? Ça coûte trop cher ou bien il y a une raison plus politique derrière cette décision?
Il y a quand même une réticence générale vis-à-vis des organisations, des institutions internationales qui seraient budgétivores, si vous voulez. Vous voyez, donc on donne très peu de moyens à ces institutions-là, alors qu'on aurait dû donner des moyens financiers, mais également humains, qu'il y ait un peu plus de pluralisme dans le mot de l'approche de la justice et que ce ne soit pas un système clé en main qu'on donne.
Il faut dire aussi que système qui repose sur la volonté des États. Donc c'est toute la beauté et aussi le risque du système, évidemment, puisque pour commencer, on décide ou pas de devenir un État parti de cette Cour pénale internationale. Tout le monde n'a pas les mêmes moyens. Donc effectivement, les financements sont extrêmement déséquilibrés. Ça, c'est un fait. Mais justement, Amnesty International demande qu'on renforce aussi les moyens financiers.
Et puis, on en est où de ce débat aujourd'hui dans les pays qui ont signé le fameux traité de Rome? Est-ce que la question des moyens est une question qui monte?
Oui, bien sûr, c'est l'une des questions essentielles, parce que la justice, on le sait très bien, est toujours non seulement très longue, ça fait partie des frustrations, on dit souvent que si on compare à des tribunaux ad hoc, ça a été encore plus long et encore plus coûteux. Je crois que c'est 100 millions aujourd'hui, la CPI. Donc c'est un budget qui paraît énorme. Mais au regard de la gravité des faits et encore une fois, la motivation derrière qui est la lutte contre l'impunité d'une part, mais aussi de permettre à des pays qui ne pourraient pas, avec leur justice nationale, offrir des possibilités.
C'est ce que disait Alassane Ouattara.
Voilà, c'est ça. Et là, effectivement, il faut bien rappeler que les pays africains étaient extrêmement demandeurs, ont été parmi les premiers à pousser à la création de cette CPI. Donc évidemment, Ça ne veut pas dire qu'après, on est satisfait de ce à quoi on est arrivé tout de suite. Mais en tout cas, il y avait vraiment cette dynamique qu'il ne faut pas non plus oublier. Et il faut rappeler aussi qu'actuellement, certes, il y a eu 3 départs parmi les États africains, mais il y a aussi d'autres États africains, comme le Sénégal, comme la Côte d'Ivoire, comme le Malawi,
Et
non seulement ça, mais qui ont réitéré très récemment leur attachement à cette institution, parce qu'ils savent très bien que c'est une institution qui est absolument nécessaire lorsque les justices nationales ne pourraient pas répondre à ces besoins.
Francis Patindé ?
Il y a autant de pays également qui ont manifesté leur réticence, leur réserve vis-à-vis de la CPI. Et j'ai peur que si on ne réforme pas cette institution, que l'effet domino joue. Et ça pourrait jouer
à la... Vous pensez à quel pays ?
Je pense au Kenya, par exemple, qui est un pays important. L'Afrique du Sud, c'est un pays important. Il y a le Kenya, même le Nigeria. Il n'est pas exclu que le Nigeria ou des pays comme l'Éthiopie aussi se retirent. Or, c'est des pays qui font l'Afrique, ça. Et vous savez qu'il y a un sommet de l'Union africaine au mois fin janvier à Addis Abeba.
Oui, Addis Abeba, c'est ce que j'allais dire. C'est en plus le siège de l'Union africaine. Ce serait très symbolique que l'Éthiopie. Symbolique.
Et à l'approche de ce sommet, j'ai peur qu'il y ait d'autres pays qui annoncent leur retrait et ou au lendemain de ce sommet.
Donc vous
sommet.
Pensez qu'on en est à ce type de calendrier, que ça pourrait aller très vite? C'est ce que vous nous dites, Francis Patindé?
Oui, absolument. Moi, je pense que, de par des discussions que j'ai pu avoir, certains chefs d'État, même, et pas des moindres, c'est que c'est un mouvement qui risque de prendre de l'ampleur si on n'annonce pas, dans les prochaines semaines, des réformes de fond de la CPI.
Alors, à ce propos, l'Assemblée, vous voulez réagir peut-être, Cécile Coudray?
Comme vous avez parlé de sommet de l'Union africaine, je voulais du coup parler aussi d'un autre sommet précédent qui a été à l'occasion de la crise pour l'Afrique du Sud. Parce que tout à l'heure, j'ai parlé du Burundi. Ce serait intéressant de comparer justement avec les raisons qui ont poussé l'Afrique du Sud à se joindre à cette diatribe, on va dire, contre la CPI. Et là, il faut quand même se souvenir que Omar El-Béchir, donc pas exactement un ami des droits de l'homme, dirons-nous, qui donc se rendait à ce sommet africain, aurait dû, normalement, si les États partis respectaient les règles qui sont celles de cette Assemblée, aurait dû remettre le président soudanais à la CPI. Or, le gouvernement ne l'a pas fait. Et donc, l'une des raisons qui explique, c'est pas la seule, hein, je vais être tout à fait honnête, mais l'une des raisons, à notre avis, en tout cas, très importante, qui a poussé l'Afrique du Sud à se retirer, c'est d'être dans l'embarras, pour ne pas dire extrêmement offensé, du fait qu'il y ait eu toute une réaction négative, y compris d'associations, notamment des ONG des droits humains africaines, hein, qui ont trouvé que c'était honteux que justement ce dictateur soudanais puisse se promener tranquillement.
Donc ce venir que vous êtes en train de dire, c'est que finalement ce qu'on reproche à la CPI, c'est d'un côté d'être politique, de s'en prendre tout le temps à l'Afrique, et de l'autre côté de pas être assez contraignante, finalement pas assez puissante.
En l'occurrence, c'est un État africain lui-même, alors qu'il était un État parti, qui n'a pas respecté les règles qu'il devrait bien sûr respecter, puisque ça fait partie de l'accord. À partir du moment où on a signé et ratifié, ça devient contraignant. Encore une fois, je le répète, ça fait partie de cette démarche qui consiste à compter sur la volonté des États, une volonté politique au sens noble du terme. Et là, ça n'a pas été respecté, et donc c'est un peu facile après de dire que on n'a pas pu finalement, respecter d'autres obligations telles que des obligations diplomatiques. Elles devraient, en tout cas, au regard d'Amnesty International, évidemment, être bien en deçà de cet intérêt supérieur qui est la lutte contre l'impunité et le respect de ces règles.
Donc, on pourrait réformer, rajouter des contraintes. Vous parliez tout à l'heure, en début d'émission, Francis Patindé, du mode de saisine qui, selon vous, n'était aujourd'hui pas, pas légitime dans certains cas. Alors, vous plaideriez pour quel mode de saisine? Quelle
d'abord,
réforme du mode de saisie?
Je plaide pour une rupture du lien ombilical entre la CPI et le Conseil de sécurité des Nations Unies. Vous savez, surtout le club fermé des membres ayant le droit de veto, ils sont 5, et vous avez quand même la Russie, la Chine et les États-Unis qui ne sont pas signataires, qui sont pas partis en tout cas. Donc moi je pense qu'il faut supprimer ça, parce que le Conseil de sécurité, c'est un secret de polichinelle, c'est une institution politique, et ce qu'on nous a appris à l'école, en tout cas à la faculté de droit, c'est que la justice doit être sereine, elle doit être impartiale, elle doit pas être politique.
Sur ce point, vous êtes d'accord?
Oui, effectivement, on a aussi émis beaucoup de critiques face à ce Conseil de sécurité. Mais si vous voulez bien, je vais peut-être revenir sur le mode de saisine, parce qu'en fait, il y en a trois. Donc, c'est soit un pays qui est justement État parti qui peut saisir la Cour pénale internationale.
C'est la majorité des cas, je le rappelle.
Et notamment beaucoup de pays africains. Il faut toujours le rappeler. Hein, c'est avant tout une justice aussi pour les victimes. Et donc, les victimes sont bien souvent aussi africaines.
Il y a beaucoup de plaidoyers pour la CPI aussi, dans la presse africaine.
Oui. Donc, il y a le pays lui-même. Ça peut être également une auto-saisine. C'est le procureur, en l'occurrence en ce moment la procureure,
Fatou Bensouda.
Fatou Bensouda, exactement. Et ça peut être en passant par le Conseil de sécurité de l'ONU. Et c'est intéressant, notamment lorsqu'il s'agit d'un pays tel que la Syrie, où il n'y a pas de signature. Il y a encore moins de ratification, évidemment, de la CPI. Ça serait plutôt suicidaire pour le gouvernement.
Oui, la Syrie, c'est aussi ça. C'est quand même le grand échec de la CPI. Alors, on peut comprendre peut-être qu'elle soit en critiquée. C'est béant.
La critique, elle n'est pas exactement la même pour Amnesty International que pour M. Patindé. Bien sûr qu'on est extrêmement critique d'un tel cynisme qui, depuis maintenant 5 ans avec le conflit en Syrie. Je crois que c'est à 5 reprises qu'il y a eu un veto de la part de la Russie, parfois suivi par la Chine, parfois pas. Mais nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut aussi réformer, justement. D'ailleurs, la France, récemment, a voulu déposer une résolution pour réformer ce droit de veto, qui est une honte absolue, il faut bien le dire, dans le cas notamment d'atrocités de masse.
Oui, absolument, oui. Je suis d'accord. Mais je voulais ajouter juste que la CPI... et un tempo, un agenda politique également. Vous savez, sur la Côte d'Ivoire, il se dit qu'il y a trois cas qui sont sous-cellés actuellement. Et la CPI actionne selon l'actualité politique, selon son agenda politique. Il y a eu M. Gbagbo qui a été envoyé là-bas, mais son épouse, par exemple, est jugée en Côte d'Ivoire. Vous voyez,
et il y a, c'est la Côte d'Ivoire qui a refusé de l'envoyer.
Il y a trois rebelles qui sont visés, semble-t-il, par des poursuites, et jusque-là, on n'en entend pas parler. Donc la CPI attend le bon moment, et donc c'est pas une justice sereine, ça.
Alors justement, puisque vous parlez de calendrier, je voudrais revenir sur la nécessité de la rapidité que vous soulignez tout à l'heure. L'assemblée annuelle des 124 membres de la CPI se tient en ce moment. L'ordre du jour, c'est justement circonscrire la crise dont on parle depuis un quart d'heure. Ne partez pas, a lancé le président de l'assemblée, Sidiki Kaba, qui est ministre sénégalais de la justice. Que faut-il comprendre quand il dit oui, les critiques sont légitimes, vous avez été entendu. Il l'a laissé entendre en filigrane. Qu'est-ce que vous en pensez, Cécile Coudriou? Qu'est-ce qu'il dit là?
Tout d'abord, on relaie complètement cet appel. C'est-à-dire, c'est vraiment d'une seule voix, puisque nous aussi, on dit ne quittez pas la CPI, restez et restons ensemble soudés pour la réformer. Ça, c'est certain que la posture est la même.
Oui, mais une fois qu'on a fait le constat, c'est qu'est-ce qu'on fait?
Justement, Amnesty International vient de sortir ce document pour faire des recommandations à l'occasion justement de cette 15e session de l'Assemblée des États partis, pour d'une part demander qu'il y ait une position très ferme de soutien, mais également apporter des réponses.
Lesquelles?
Alors plusieurs, donc comme tout à l'heure je le disais, c'est la question des moyens, mm-hmm. la question d'être un petit peu plus contraignant pour que les obligations soient réellement respectées. On parlait de la Côte d'Ivoire à l'instant, c'est vrai que M. Gbagbo a été déféré, mais pas son épouse. Mais là, on revient toujours au système de la CPI. Outre le système des saisines, il faut comprendre aussi que c'est une justice qui est subsidiaire. C'est-à-dire voilà, que c'est seulement
quand
lorsque
la justice
pays,
n'a pas pu faire son
voilà,
travail.
Lorsque le pays soit ne veut pas, soit ne peut pas, c'est important de faire la distinction aussi entre les deux, juger lui-même, là, et seulement là, la CPI, les procédures s'enclenchent.
Donc plus de moyens, donc, plus contraignants.
Oui. Et puis également de continuer de garantir, en tout cas pour Amnesty International, c'est bien sûr dans le document également, le droit des accusés. Parce que ça fait partie aussi des critiques lorsqu'on a l'impression qu'il y a deux poids deux mesures selon les affaires. Donc on cherche aussi à proposer des choses très concrètes pour qu'il y ait une assurance que les droits des accusés soient bien respectés.
Francis Platinet, sur ce thème, le droit des accusés, le renforcement, est-ce que c'est pas une bonne réponse à apporter aux frondeurs?
C'est une bonne réponse à apporter aux frondeurs, mais il faut également voir... Je prends l'histoire de Guantanamo. Pendant des années, on a gardé des gens là-bas. Certains ont été torturés. Mais vous pensez que le Conseil de sécurité, un État du Conseil de sécurité, aurait pu saisir la CPI, ou la CPI aurait pu faire l'autosaisine? Ça ne s'est pas fait. Vous savez, les puissants resteront toujours les puissants. Et c'est plus facile et à justice, dans certains cas, de s'attaquer à un pays africain. Mais ce sera pas le cas de Monsieur George Bush, par exemple. Vous le savez très bien.
Et ça, ce sera pas le cas à cause de quoi? Parce que les États-Unis n'ont pas ratifié, donc il faut forcer tout le monde à ratifier?
Mais tout à l'heure, vous disiez, ne peuvent pas ou ne veulent pas. Quand la justice nationale américaine ne peut pas ou ne veut pas, mais on aurait pu imaginer que la CPI se saisisse.
Mais il n'y aura jamais d'obligation, sauf si on instaure une autosaisine, c'est ce que vous dites.
L'autosaisine existe, la procureure peut saisir.
Et alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour que sur Guantanamo, la CPI soit saisie?
Pourquoi elle ne le fait pas?
C'est vrai que nous, justement, à Amnesty International, on cherche à pousser un maximum d'États à reconnaître la compétence universelle. Et puis également, il n'y a pas que la CPI. Il faut savoir aussi, même en France, par exemple, il y a encore des verrous dans la loi française, malgré la proposition de Jean-Pierre Sueur, qui voulait que, justement, en France, on puisse juger des criminels de guerre, pas seulement pour la torture, mais aussi pour ces mêmes crimes qui caractérisent l'action de la CPI, donc crimes de guerre, crimes contre l'humanité et génocide. Et surtout, le paradoxe, c'est qu'en France, on pouvait déjà juger des tortionnaires, mais en revanche, pour ces crimes qui sont les crimes les plus graves, on dit bien dans le texte d'introduction de la CPI que c'est ce qui dépasse l'imagination et qui a une répercussion sur l'humanité tout entière. Donc nous, ce qu'on cherche à faire, c'est effectivement à faire admettre de plus en plus par des pays cette compétence universelle et aussi à encourager l'élargissement de l'action de la CPI.
On se donne rendez-vous du coup au prochain sommet de l'UA pour voir si ça a avancé. Merci beaucoup à tous. tous les deux. Merci. Cécile Coudriou, Francis Patindé, merci également à Florence Ponce et à Valentin Vaner. On se retrouve non pas demain, pas de débat à cause de foot, mais jeudi. Merci. 7 milliards de voisins.